Bonjour à tous. Y a-t-il parmi vous des personnes qui n'aiment pas attendre ? Je suis moi-même plutôt impatient, même si parfois cela dépend un peu des raisons pour lesquelles je dois attendre. L'attente n'est pas la même quand c'est pour quelque chose que nous ne souhaitons pas ou que nous n'aimons pas particulièrement, comme par exemple un examen médical douloureux. Mais c'est un peu plus différent quand c'est pour attendre quelque chose que nous souhaitons, ou que nous aimons, ou que nous voulons avoir, comme par exemple attendre les vacances, un voyage, ou bien encore son anniversaire, surtout quand on s'attend à recevoir un beau cadeau. Dans ce cas-là, cela peut être une attente pleine d'espoir. Juste avant que Jésus soit retourné au ciel, il a confié une mission à ses disciples. En Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quand Jésus leur a confié cette mission, les disciples ont dû se poser pas mal de questions sur la signification, ce qu'ils devaient faire, comment ils allaient y arriver. Et dans Actes, chapitre 1, verset 4, Jésus leur a dit à l'occasion d'un repas, « Attendez à Jérusalem ce que vous, le Père vous avait promis. » Et la promesse dont Jésus parle, Robert l'a lu tout à l'heure, mais il se trouve également au verset 8, c'est écrit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Quelle promesse! Mais je pense que quand Jésus leur a parlé de puissance, de Saint-Esprit, les disciples n'ont pas vraiment dû comprendre de quoi il en retournait. Il y a eu 10 jours entre le départ de Jésus et la venue du Saint-Esprit. J'imagine 10 jours pleins d'espoir, mais aussi de questionnements. Les disciples devaient se demander ce qui allait se passer. De quelle puissance parlait Jésus? Pendant cette attente, ils ne savaient pas encore qu'ils allaient être les témoins de la naissance de quelque chose de nouveau, qu'ils allaient assister à la naissance de l'Église de Jésus avec la venue du Saint-Esprit. Je vous invite à lire Actes 2, versets 1 à 12. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout d'un coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître de sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues. Chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Médès ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène. Ou bien nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie. Et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. » Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» Ce texte est très connu et marque la venue du Saint-Esprit sur les disciples rassemblés. Le mot « Pentecôte » signifie « 50e » et désigne la fête des semaines ou de la moisson qui était célébrée 50 jours après la Pâque, en mai ou juin. Elle faisait partie des trois fêtes annuelles pour lesquelles tout le peuple devait se rassembler à Jérusalem. Aujourd'hui, peu de non-chrétiens connaissent la signification biblique de la Pentecôte. Mes collègues au travail savent uniquement que c'est une journée de solidarité et se posent la question s'il faut qu'ils aillent travailler ou non. Pourtant, la Pentecôte est un événement très important, aussi important que les autres fêtes chrétiennes. Et pourquoi la Pentecôte est si importante? Qu'est-ce que cela signifie pour l'Église? Qu'est-ce que ça change dans notre vie? Je vous propose de le voir ce matin. Le jour de la Pentecôte, une nouvelle étape a commencé. Une étape décisive et grandiose. Le Saint-Esprit a été donné à l'Église. Et comme c'est un événement spécial, le Seigneur a jugé bon d'envoyer des signes formidables. Un bruit, comme celui d'un violent coup de vent qui a rempli toute la maison. Des langues, comme des flammes de feu qui sont allées se poser sur la tête des disciples. Des signes merveilleux. Je vous propose d'en regarder leur signification. Alors le bruit, le vent, le feu sont des signes classiques de l'apparition ou de la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on le voit avec Moïse, notamment le buisson ardent, avec Élie quand il y a eu un tremblement de terre et le feu en 1 Roi 19, ou encore en Ésaïe 29, verset 6, on peut lire « C'est de l'Éternel, des armées, que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, avec la flamme d'un feu dévorant. » Dans les évangiles, nous y retrouvons également ces signes. Quand le rideau du temple se déchire, lors de la mort de Jésus, il y a donc une continuité avec les textes bibliques dans les Actes. Dans Actes 2, verset 3, ces signes se produisent d'abord par l'ouïe, puis la vue. Alors tout d'abord, le bruit. Alors il vient tout d'un coup, d'en haut, du ciel, pour manifester la présence et l'action de Dieu. Il remplit toute la maison. Ce bruit a donné l'impression d'un coup de vent très violent. Et c'est une image très juste de la puissance et de la liberté de l'Esprit qui, comme le vent, souffle où il veut. Encore aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut arrêter le vent? Non, c'est impossible à l'homme. On peut à la rigueur s'en protéger et encore. Deux expressions marquent le caractère inattendu de la venue du Saint-Esprit. Alors le mot « tout d'un coup » qui est placé en tête de la phrase, et puis ce détail, les disciples étaient assis. Cela veut dire qu'ils n'étaient pas en prière, car les Juifs priaient debout. Ils étaient donc occupés à autre chose et ont dû être très surpris. Le vent peut être d'une force incroyable et être très utile, comme pour les moulins ou les bateaux à voile. Et on sait que Jésus est le maître du vent. Le vent lui obéit, il calme les tempêtes. Le vent, c'est quelque chose d'invisible, mais pourtant de très réel. On le voit, pas en tant que tel, mais on en voit ses effets. Sur cette photo, vous voyez, les arbres, les palmiers sont normales, la mer est calme. Et puis, sur la diapo suivante, on ne voit pas le vent, mais on voit les effets. On voit le palmier qui est en train de plier les vagues sur la mer. Mais on ne voit pas le vent, mais on en voit ses effets. Et sur la slide suivante, que ce soit avec les bateaux qui bougent sur l'eau ou les vagues qui s'écrasent sur les rochers, on voit l'effet du vent. Et c'est pareil pour le Saint-Esprit. Il doit se voir à travers nous, à travers les effets sur notre personne, notre comportement, nos actions. Le vent symbolise souvent l'esprit dans l'Écriture, que ce soit en Ézéchiel 37 ou dans Jean 3, verset 8, que je vais vous lire. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Le deuxième signe, ce sont ces langues de feu. Alors le feu, il purifie. Il symbolise la sainteté de Dieu. D'ailleurs, dans le récit de la sortie d'Égypte, une colonne de feu précède le peuple et signale la présence de Dieu lui-même à la tête de son peuple. Si certains parmi vous regardent l'émission de télé Koh-Lanta, ce sont des aventuriers sur une île déserte. Rappelez-vous de leur joie quand ils arrivent à faire du feu. Le feu représente la lumière, la chaleur, la vie. Le feu est indispensable non seulement pour la cuisson des aliments, mais il sert aussi pour la purification des métaux précieux en particulier. Le feu consume toute impureté pour ne laisser que la matière noble. Il symbolise la présence de Dieu devant lequel aucune impureté ne peut subsister sans être aussitôt consumée. Et la langue, elle représente bien sûr l'instrument, l'organe qui permet d'annoncer la parole autour de nous. Les langues de feu, tout comme le bruit du vent, étaient des signes surnaturels qui confirmaient que Dieu avait envoyé le Saint-Esprit sur chaque croyant. Nous sommes face à des signes, c'est-à-dire des miracles annonciateurs d'une réalité nouvelle qui fait à ce moment-là son entrée dans le monde. Et cette nouveauté, c'est la naissance d'une communauté de foi, d'une communauté, à vocation universelle et liée entre les membres par un même esprit. Luc cite 15 nations ou nationalités qui représentaient à l'époque le monde connu. Et toute cette liste est là pour insister sur le fait que chaque nation, chaque peuple, chaque tribu, chaque individu est concerné. Et chacun d'entre eux entend parler de la gloire de Dieu dans sa propre langue. La foule était étonnée, c'est normal. Non seulement ils entendent dans leur propre langue, mais en plus, elle sort de la bouche de Galiléens. Et pour l'anecdote, j'ai lu que sur l'opinion populaire de l'époque, les Galiléens avaient très peu d'éducation, donc n'apprenaient pas les langues étrangères. Et en plus, ils avaient un accent qui était difficile à comprendre. C'est donc un véritable miracle. Mais désormais, la diversité de langues et de cultures ne sera plus un obstacle infranchissable. Leur vocation à présent est de louer le Seigneur d'une seule voix et dans un seul esprit. D'ailleurs, lorsque le Saint-Esprit vient sur les disciples le jour de la Pentecôte, nous apprenons simplement qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. C'est au verset 1. L'endroit où ils étaient rassemblés n'est pas spécifié et leur nombre n'est pas indiqué. Pourquoi cette absence de précision ? Malgré le soin à Luc à rassembler des informations et des faits, surtout lors d'un événement aussi important. Cette absence de détails permet de mettre en évidence que le don du Saint-Esprit n'est pas réservé à une élite pour former une nouvelle entité, mais à tous. Et que l'action de Dieu n'est plus liée à un lieu, ni à quoi que ce soit d'extérieur ou de matériel. Adultes, enfants, hommes, femmes, fils, filles, jeunes et vieux, maîtres et serviteurs, nous avons tous le même esprit si nous sommes chrétiens. Il n'y en a pas un qui en reçoit plus qu'un autre. Il n'y en a pas un qui est plus spirituel que l'autre. Ni son âge, ni son arrière-plan social, ni son genre ne changent le fait qu'un chrétien soit habité et équipé par l'Esprit. Nous sommes tous habités par le même Saint-Esprit. Le texte des Actes nous dit une autre chose intéressante. Les langues de feu, portées par un vent violent, se sont divisées et posées sur chacun particulier, se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Il y a là, à mon avis, deux enseignements importants. Nous recevons tous le même esprit, mais de manière différente. La diversité et l'unité sont tous les deux dans le projet de Dieu. L'unité de l'Église est donnée d'en haut, elle est l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas à la produire, mais nous pouvons et devons, je crois, la manifester, en particulier face au monde. Quant à la diversité, elle préserve le caractère unique de notre personnalité. Le Saint-Esprit ne produit aucune espèce d'aliénation. Il veut toujours coopérer avec notre volonté propre. Il sait utiliser nos ressources et notre intelligence renouvelée. S'il nous demande une chose, il veut aussi nous rendre capables de l'accomplir. Il produit en nous le vouloir et le faire. La diversité, c'est celle de nos dons, de nos ministères et de notre personnalité. L'unité, c'est celle de l'esprit, comme nous rappelle Éphésiens 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Mais aussi, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Le projet de Dieu en nous est de nous faire dépasser toute barrière individuelle, sociale, ethnique, linguistique. Nos divisions internes, nos difficultés à communiquer, nos manques de vision commune, tout ceci témoigne que le Saint-Esprit n'a pas achevé son œuvre en nous. Alors laissons-le agir dans les différents domaines de notre vie. Dans nos relations internes, dans l'Église ici, dans nos relations avec d'autres Églises partageant la même foi, dans nos relations avec les étrangers, dans nos relations avec nos collègues, dans nos relations avec notre famille. Apprenons à recevoir et demander l'unité de l'Esprit dans l'amour et dans la vérité. Au verset 11, on peut lire que chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Par-dessus les langues et la culture, il existe une dimension universelle à la louange. Laissons plus de place à l'Esprit pour nous donner l'envie de louer, nous donner envie de prier plus librement, de chanter de tout notre cœur, d'avoir le courage de témoigner des choses merveilleuses que Dieu a fait dans nos vies. Souvenons-nous que notre prière peut être renouvelée par l'action de l'Esprit, comme nous le dit Romains 8, versets 26 à 27. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu, qui scrute les cœurs, sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Les disciples ont vécu quelque chose d'extraordinaire en ce jour de Pentecôte. Vous auriez peut-être aimé être là avec eux, entendre le bruit, voir les flammes sur vos têtes. Nous aimerions parfois voir les signes de Dieu, avoir la preuve que Dieu est réellement avec nous, qu'il nous dirige, qu'il nous aime. Le lieu où nous sommes rassemblés aujourd'hui n'est pas rempli d'un bruit comme d'un vent violent. Personne ici, je vous regarde, n'a de flammes sur la tête. Mais le message de l'Évangile reste le même. La réalité de la Pentecôte est permanente. Nous n'avons plus besoin des signes du vent et du feu. Est-ce que l'église de Corinthe a vu des flammes de feu? Ou ont-ils entendu le bruit d'une tornade? Non, les signes ne sont pas répétés. Paul a dit aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» En 1 Corinthiens 3, verset 16. Et au chapitre 6, verset 19, il dit, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. » Les signes ont disparu, mais il est certain d'une chose. Chaque personne rachetée par le sang de Jésus est devenue le temple du Saint-Esprit. Ce matin et chaque jour que Dieu fait, nous pouvons nous en réjouir. Le Seigneur nous appelle à vivre la réalité de la Pentecôte tous les jours. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est descendu pour habiter en nous. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Nous ne sommes pas seuls dans les épreuves. Recherchons sa force et sa lumière. L'enseignement de Jésus est exigeant. Aimez votre prochain et de même vos ennemis. Être témoin de son amour. Vivre et pratiquer tout ce qu'il nous a prescrit, faire briller sa lumière jusqu'au bout du monde. Qui est capable de répondre à une telle demande. Le Seigneur ne compte pas sur des hommes exceptionnels, mais sur des hommes pécheurs repentis, des hommes ordinaires. Les apôtres étaient des hommes simples, certains des ouvriers qui pêchaient le poisson dans le lac de Galilée. Et ils ont bouleversé le monde à leur époque. Un monde ignorant et hostile à l'Évangile. Ils n'avaient pas de moyens financiers, ni de support de la part des autorités, ni aucune organisation officielle. D'où est venu leur succès ? De la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur a promis en Jean 16, verset 14, que l'Esprit Saint, lui, me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. À chaque seconde, notre corps a besoin d'air pour entretenir la vie. Mais à force de respirer, nous ne sommes plus conscients, dans la mesure où l'air est disponible en quantité et en qualité suffisante. De la même manière, le Saint-Esprit est à l'œuvre en nous, sans que nous nous en rendions toujours compte. D'ailleurs, c'est souvent après coup qu'on s'en aperçoit. Je suis sûr que vous avez tous des exemples où vous avez trouvé de surprenantes coïncidences dans vos vies ou dans la vie de vos amis. Le Saint-Esprit nous dirige dans nos vies, façonne nos caractères, nous conduit dans la prière, nous donne la joie dans la louange, nous fait aimer nos frères et notre communauté, nous ouvre les yeux face à un texte de la Bible, donne de la puissance à la prédication de sa parole et de l'assurance dans le témoignage, nous console dans les moments de tristesse, nous fortifie dans nos moments de faiblesse, purifie et dirige nos pensées, nous rend aptes au service, etc. On pourrait continuer ainsi de suite pendant longtemps. Il a fallu des siècles pour comprendre le rôle de l'air dans la combustion, le métabolisme de la vie, la météorologie. Mais cela n'a pas empêché le monde de fonctionner. Nous pouvons ne pas comprendre comment l'esprit agit, et pourtant il est à l'œuvre. Nous observons l'air ou le vent à ses effets, nous constatons la présence de l'esprit à son fruit. Comme nous le dit Galates 5, versets 22 à 23, « Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. » Et c'est pareil pour notre vie spirituelle comme pour notre vie physique. De même que nous pouvons nous soustraire momentanément au contact de l'air, pendant une plongée en apnée par exemple, nous pouvons aussi nous soustraire par désobéissance à l'action du Saint-Esprit. L'homme peut rester quelques minutes en apnée. Certains mammifères, comme la baleine, peuvent plonger pendant plus d'une heure. Mais certains chrétiens, pendant combien de temps peuvent-ils se soustraire à l'action du Saint-Esprit ? Bien plus que quelques heures, malheureusement. Et c'est pourquoi nous devons veiller à l'entretien de notre vie spirituelle, autant que nous veillons à l'entretien de notre vie physique. Si on regarde la vie de Pierre, on peut voir l'effet du Saint-Esprit. Alors, il partage la vie de Jésus pendant 3 ans, il est témoin oculaire de tous les miracles, il entend tous les discours et enseignements du Maître, il partage l'intimité du Seigneur qu'il entraîne avec lui dans ses moments de prière, il est encore là, contemplant la gloire du Sauveur. Et au moment de l'arrestation de Jésus, il le renie 3 fois. Apparemment, la vie de Pierre passe par un grave échec. Mais quelques semaines après, le reniement, il reçoit le Saint-Esprit. Quel changement ! Quelle audace dans ses discours ! Quel prodigieux résultat ! Après sa première prédication, 3000 disciples acceptent le baptême par immersion. Quelle sérénité lorsqu'il est arrêté et jeté dans une prison. Quelle fidélité aux enseignements du Maître. Quelle autorité dans ses prières. Dans notre groupe de quartier, on lit actuellement le chapitre des Actes. Et on voit que des paralytiques se lèvent, des malades guérissent, et même une morte ressuscite à la prière de Pierre. Des multitudes se convertissent à Jésus. D'où vient ce changement ? L'Esprit Saint est venu dans la vie de Pierre pour le changer profondément. Et Pierre restera fidèle jusque dans la mort. Cette promesse est pour vous, dira Pierre dans son premier discours. Pour avoir une foi rayonnante, une foi forte, pour vivre pleinement les enseignements du Christ, pour être un témoin efficace, tout disciple a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aidera à vivre une vie de disciple dans la plénitude. En 2007, quand nous avons emménagé dans notre appartement à Frontignan, nous avions fait quelques travaux de rénovation, bricolé un peu. Et un matin, il m'a fallu faire un simple trou dans le mur du garage pour accrocher quelque chose au mur. Mais je n'avais pas de forêt appropriée à ce type de mur. Mais j'ai quand même persévéré, alors j'ai mis un forêt qui n'était pas destiné au béton, et j'y ai passé plus d'une demi-heure à essayer d'appuyer comme un fou avec des étincelles. J'en suais. Pour arriver à la fin à un demi-millimètre de trou. Alors je suis allé chercher un forêt béton, je l'ai installé, et là en moins de 30 secondes c'était fini. Pour bien travailler, il nous faut les bons outils, des outils corrects et adaptés pour le travail effectué. Avant la venue du Saint-Esprit, les disciples n'avaient pas les outils qu'il fallait pour répondre à la commande de Jésus d'aller faire de toutes les nations les disciples. Ils avaient l'enseignement de Jésus. Ils avaient l'ordre d'y aller et même le désir d'obéir à cet ordre. Mais il leur manquait quelque chose. Il fallait attendre ce quelque chose, le Saint-Esprit, qui avait été promis par Jésus. Soyons encouragés parce que Jésus nous donne tout ce qu'il faut pour que nous puissions accomplir ses ordres. Personne n'est responsable tout seul pour la mission de l'Église. Nous n'agissons pas avec nos propres forces pour vaincre ce monde. Nous avons une puissance venue des cieux. Croyez-le et agissez comme vous le croyez. L'œuvre que le Saint-Esprit accomplira en nous dépendra des possibilités que nous lui laisserons. Nous sommes encouragés à développer une véritable spiritualité, non seulement personnelle, mais aussi communautaire. Nous sommes invités à être remplis de l'Esprit, comme nous le dit Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et même si nous l'avons déjà reçu, nous pouvons demander au Seigneur d'en avoir plus, comme il nous le rappelle en Luc 11, verset 13. Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Prions. Seigneur, nous voulons ce matin te remercier de ce don du Saint-Esprit sur nous. Ce signe miraculeux montre que c'est quelque chose de magnifique, d'exceptionnel, que tu nous as permis d'avoir et que nous avons toujours encore aujourd'hui. Et Seigneur, nous voulons que nos corps, que notre esprit te laisse la place nécessaire afin que tu puisses nous remplir de ton Saint-Esprit et que tu puisses nous aider à avancer, accomplir les missions que tu nous donnes, Seigneur. Que l'Esprit puisse jaillir de nous des fruits, comme les fruits que nous avons lus dans Galates. Qu'on puisse être des témoins de ton amour pour nous, Seigneur, de ta grâce pour nous. Et ce matin, nous voulons te demander de renouveler, de nous donner la capacité de prier comme il le faut, Seigneur. Que vraiment que ton Saint-Esprit puisse remplir nos vies et que nous puissions te rendre gloire, Seigneur. Amen.